Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Bon, ce matin, nous allons poursuivre le message que nous avons vu vendredi. Qui n'était pas là vendredi soir, s'il vous plaît? Bien haut la main. Waouh, quasiment 80%. Amen. Vous étiez où? Et donc je vais commencer ce message ce matin donc par un rappel, puisque on va dire que c'est le titre c'est plus de Dieu être pauvre en esprit, mais ça va être la partie 2 avec un rappel important de ce qu'on a vu vendredi, mais aussi avec une approche différente de ce qu'on a vu vendredi. Il y avait vraiment des pépites vendredi. Je vous encourage, lorsque le message sera accessible sur le site de l'église Extravagance, d'aller le récupérer pour fortifier votre foi. Et en priant, le Saint-Esprit a mis sur mon cœur cette pensée que heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Pour aller dans la même direction que le pasteur Bruno il y a 2 semaines de ça, qui nous partageait un message qui nous encourageait à dépendre de Dieu, où il disait « Dieu dépend de celui qui dépend de lui ». C'est extrêmement puissant. Ensuite, avec le pasteur Léon, la semaine dernière, il a prêché sur avoir faim et soif du feu de Dieu, avoir faim de réellement toucher sa robe pour manifester la gloire de Dieu, avoir faim de l'atmosphère du ciel. Et dans la même pensée, nous allons voir ce week-end que dépendre de Dieu, avoir faim de lui, c'est être pauvre en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Ici, Jésus ne parle pas de ceux qui sont pauvres physiquement, de ceux qui sont pauvres au niveau matériel, c'est pas ça. Il parle de ceux qui sont pauvres en esprit. Quand quelqu'un est pauvre, c'est qu'il manque du nécessaire. Il est dans le besoin. Et le pauvre en esprit manque réellement du nécessaire. Il est dans le besoin du nécessaire. Et le nécessaire, c'est Dieu et sa présence. C'est le Saint-Esprit et son feu. Et si tu veux plus de Dieu dans ta vie, il est important de comprendre ce que Jésus dit. Lorsqu'il commence le sermon sur les béatitudes en disant dans Matthieu 5, 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » L'autorité leur appartient. Le règne leur appartient. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il veut que nous soyons bénis. Jésus n'était pas un prédicateur qui, lorsqu'il enseignait, voulait le malheur de ceux qui l'écoutent. Il disait, mais heureux êtes-vous, bénis, vous aurez du succès, vous aurez de la joie, vous aurez une vie pleine si vous êtes pauvre en esprit. Parce qu'il donnait la condition dans le désir, avec un désir que nous puissions appliquer la condition pour que nous puissions être heureux. Amen. Parce que c'est le cœur de Dieu que son peuple soit béni. C'est un bon père. Aucun papa, je l'espère, dans ce lieu, a envie que ses enfants soient malheureux. Sinon, on priera pour vous. Mais Dieu est un meilleur père que le meilleur des papas dans ce lieu. Que le meilleur des papas sur terre. Et nous sommes ses enfants et il désire que nous soyons heureux. Le roi David avait compris, même s'il était roi, la nécessité d'être pauvre en esprit. Il dit dans Psaume 40, verset 18, il dit « Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. » Il faut comprendre que là, c'est l'homme le plus important de l'époque qui dit « Je suis pauvre et indigent. » David n'était pas pauvre, même dans le désert, qu'a fuyé Saül. n'était pas pauvre. Il avait toute une armée avec lui. Il avait des soldats. Il savait prendre soin d'eux. Dieu le bénissait. Quand il était roi, encore plus. C'était l'homme le plus puissant de l'époque. Et il dit, je suis pauvre et indigent. Il est en train de dire à Dieu, j'ai tellement besoin de toi que tout ce que j'ai n'est pas nécessaire par rapport à ma nécessité de dépendre de toi. Voilà ce que ce passage signifie dans Psaume 40, 18. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Quand quelqu'un est pauvre, il a compris que sans Dieu, il n'est rien. Et je disais vendredi, le royaume de Dieu est en nous, comme nous dit Jésus. Christ est en nous, il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et nous devons tous réaliser que ce qui se passe en nous est beaucoup plus important que ce qui se passe autour de nous. Jésus, lorsqu'il dit « heureux, êtes-vous, heureux les pauvres », il parle d'un état d'esprit, il parle d'une mentalité, d'une attitude, il parle d'un comportement intérieur, d'une attitude de cœur. Il dit « heureux êtes-vous si vous êtes pauvre en esprit ». Et c'est très important de comprendre ça. Parce que si notre joie, le succès de notre vie dépend uniquement des circonstances, on le sait tous, les circonstances sont comme des montagnes russes. Une fois tu es en haut, une fois tu es en bas. Donc si notre joie dépend uniquement des circonstances, c'est une joie fragile. C'est pour ça que ce qui se passe en nous est beaucoup plus important que ce qui se passe autour de nous. Quand on cherche Dieu, qu'on dépend de lui, alors on commence à voir les choses comme il voit. On commence à réellement réaliser que notre joie dépend de lui, en nous, de lui qui se manifeste au travers de nous. C'est le plus important. Quelqu'un rempli de Jésus est capable de pardonner à ses ennemis. Quelqu'un rempli du diable est capable de détester ses amis. C'est pas une question uniquement de choses extérieures. Ça dépend de ce qui se passe en nous. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont. Nous voyons les choses telles que nous sommes. Une autre façon de dire dans les Écritures, c'est tout est pur pour celui qui est pur. Mais tout est souillé pour celui qui est souillé. Quelqu'un, deux personnes vont par exemple être dans une situation, une difficulté, un problème, où ils vont faire face à la même offense. Je ne sais pas, quelqu'un qui rejette ou un groupe qui rejette, je ne sais pas quelle offense. Et l'un est rempli de l'amour et l'offense n'affecte pas et il pardonne. Mais l'autre est rempli d'amertume. L'offense l'affecte. Ils ont vécu les deux la même situation, mais ils ne réagissent pas pareil. Parce que ce qui se passe en nous est beaucoup plus important que ce qui se passe autour de nous. Donc heureux êtes-vous si vous êtes pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, nous dit Jésus, car le royaume de Dieu est à eux. La version Le Message est puissante, elle dit « Heureux êtes-vous lorsque vous commencez à ne plus mettre votre espérance en votre propre capacité. Moins de vous laissera la place à plus de Dieu pour qu'il règne en vous. » Dangereux passage. Heureux êtes-vous lorsque vous commencez à ne plus mettre votre espérance en votre propre capacité. Moins de vous laissera la place à plus de Dieu. Magnifique verset. Et l'apôtre Paul avait compris ça. Et j'espère que toi et moi, que nous, ce matin, nous allons grandir dans cette compréhension, dans cette révélation de la parole de Dieu. Moins de nous et plus de lui. Jean-Baptiste disait « qu'il grandisse et que je diminue ». C'est déjà extraordinaire. Mais l'apôtre Paul disait « je suis mort afin qu'il vive ». C'est même pas que je diminue, c'est que je suis plus là. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut nous remplir de Christ, de la vie. Il veut nous remplir de lui. Parce que les pauvres en esprit sont ceux qui espèrent en l'intervention de Dieu. Ils espèrent en sa capacité. Il fait confiance que Dieu est capable de les délivrer lorsque tout va mal. Il fait confiance que Dieu est capable de les préserver lorsque tout va bien. 2 Corinthiens 9, l'apôtre Paul dit « Nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » Vous savez, être pauvre en esprit, c'est réaliser ceci. On comprend que notre véritable besoin dépasse en réalité la réponse à nos besoins. Que notre véritable besoin, c'est sa présence. C'est notre véritable besoin, c'est lui. Et le pauvre en esprit a compris cela. Ils ont compris que leur besoin prioritaire, c'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit. David, dans l'Ancien Testament, il n'avait même pas reçu le Saint-Esprit comme nous. Il avait reçu le Saint-Esprit, mais pas comme nous. Il n'avait pas la croix et la résurrection. David n'était pas une nouvelle créature. Moïse n'était pas une nouvelle créature. Joseph n'était pas une nouvelle créature. Daniel n'était pas une nouvelle créature. Tous ces héros de la foi, tous ces hommes de Dieu extraordinaires, tous ces ministères qui ont bouleversé le monde, qui étaient au top pour le Seigneur, n'avaient pas la croix et la résurrection. Vous et moi, on a plus qu'eux. Alors pourquoi ferions-nous moins qu'eux ? On peut juste méditer là-dessus. Jean-Baptiste, qui baptisait d'eau, a annoncé un autre baptiste, Jésus, qui baptisait du Saint-Esprit et de feu. Et Jean-Baptiste dit, mais c'est toi qui dois me baptiser. Il soupirait après ce baptême. Et nous l'avons. Vous et moi, nous l'avons. Nous devons avoir faim. Un pauvre en esprit comprend, il soupire après la présence du Saint-Esprit. Il soupire après ce feu de Dieu. Il soupire après la gloire du roi des rois. Il soupire après l'atmosphère du ciel. Il veut plus de Jésus en lui. Et il veut moins de lui. Il veut plus de sa capacité et moins de sa capacité. Et David avait compris ça. Dans le psaume 51, verset 13, il dit « Ne me rejette pas loin de toi. Ne me prive pas de ton Saint-Esprit. » Que Dieu nous donne ce cœur qui soupire comme ça, qui a faim du Saint-Esprit encore plus, faim de la présence de Jésus. Moïse a dit, pareil dans l'Ancien Testament, il n'avait pas le baptême du Saint-Esprit comme nous. Moïse a dit, en effet, si tu ne nous accompagnes pas, comment pourra-t-on savoir que tu nous accordes ta faveur à ton peuple et à moi ? Seule ta présence peut nous distinguer des autres peuples de la terre.
Waouh.
Seule ta présence peut nous distinguer des autres peuples de la terre. Moïse avait compris. David avait compris. Et nous, il faut qu'on comprenne aussi que seule sa présence est capable de faire la différence. C'est dans sa présence que se manifeste la puissance. C'est dans sa présence que se trouve l'abondance. C'est ce que Dieu veut que nous puissions réaliser. Soyons pauvres en esprit pour que le royaume de Dieu soit à nous. Et on avait commencé à voir comment faire pour développer cette attitude de cœur. Comment faire pour cultiver cet état d'esprit. Comment faire pour être pauvre en esprit et le rester. On avait vu que le premier besoin, parce qu'un pauvre est quelqu'un qui manque, le premier besoin pour être pauvre en esprit, c'est le besoin d'admettre et d'accepter nos faiblesses. D'admettre et d'accepter nos faiblesses. Je sais que vendredi, plusieurs ont été délivrés parce que certains avaient peur de leurs faiblesses. Certains avaient honte de leurs faiblesses. C'est pour ça que je dois faire un rappel ce matin. Parce que je sais que Dieu va délivrer encore ce matin d'autres personnes. Pour que vous n'ayez plus peur de vos faiblesses. N'ayez plus honte de vos faiblesses. Il ne faut pas devenir une victime de nos faiblesses. mais voir nos faiblesses comme une opportunité d'augmenter la présence de Dieu dans notre vie. Voir nos faiblesses comme une opportunité pour laisser Dieu intervenir plus rapidement dans notre vie. C'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Ne sois pas une victime de tes faiblesses. Le pauvre en esprit reconnaît et admet ses faiblesses, mais il n'est pas victime de ses faiblesses. Être faible, ce n'est pas péché. Ce n'est pas la même chose. Nous devons avoir une bonne vision de la faiblesse pour que cette faiblesse soit un tremplin vers une plus grande manifestation de la puissance de Dieu. Pour que cette faiblesse dégage un parfum qui attire la puissance de Dieu. Joël 3:10. Préparez la guerre et réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos hoyaux forgez des épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise « Je suis fort ». Que le faible dise « Je suis fort ». Dis avec moi, je suis fort. Dis encore, je suis fort. Dis encore, je suis fort. Dis encore jusqu'à ce que tu crois vraiment, je suis fort. Certains ne vous croient pas assez. Si la parole de Dieu dit que le faible dit je suis fort, c'est que le faible est faible, il sait qu'il est faible. Mais il ne laisse pas sa faiblesse faire de lui une victime. Au lieu de se focaliser sur sa faiblesse, il se focalise sur la force de Dieu. Parce qu'il sait très bien que la grandeur de Dieu va surmonter, triompher de sa grande faiblesse. Et il se focalise sur la force de Dieu. Et il déclare que Dieu en lui le rendra fort. Et il dit, je suis fort. Il ne suffit pas de chanter ou de déclarer, il faut le croire. Que le faible dise, je suis fort. Il y a un échange lorsqu'on arrive à accepter, à reconnaître nos faiblesses sans devenir victime. Lorsqu'on est renouvelé et qu'on se dit « Attends, ok, oui Seigneur, je ne suis pas habile. » Comme je disais, je n'ai jamais voulu prêcher la parole de Dieu. Au départ, quand je me suis converti, je n'aimais pas parler en public. Mon premier message, je tremblais comme ça dans mon pantalon et ce n'était pas la présence de Dieu. Je suis parti aux toilettes, moi, 3 fois, la même matinée, tellement j'ai mal au ventre. Et je me disais, mais Seigneur, tu sais, mais tu es sûr que c'est moi que tu veux. C'est moi que tu vas pas la prêcher? Tu t'es pas trompé, là? J'ai pas dit au début de ma conversion, oh, je veux être un grand prédicateur. Je me suis dit, oh là là, j'ai pas envie d'avoir le pupitre. Parce que je me dis, Seigneur, je mâche les cheux, les S. Les chochettes de l'archiduchesse. Mais que le faible dise, je suis fort. Parce que Dieu sait, lui, ce qu'il a prévu pour toi. Et Dieu sait, lui, ce que tu dois devenir. Et le faible ne se focalise pas sur sa faiblesse. Il la reconnaît, il l'admet, mais il ne devient pas une victime de sa faiblesse. Et il ne laisse pas sa faiblesse décider de sa destinée. Mais que le faible dise, je suis fort. Car le faible comprend que dans la faiblesse, il y a un échange. Le faible comprend que, oh, il est capable de déclarer ce que Dieu a prévu pour lui. Au lieu de ce que le passé a prévu pour lui. Au lieu de ce que les autres disent de lui. Au lieu de ce que lui-même croit de lui. Il déclare ce que Dieu croit de lui. Et il le déclare parce qu'il le croit. Et ce qu'il dit, il le prophétise sur sa propre vie. Est-ce que tu prophétises par la foi sur ta propre vie? Tu le deviens. Que le faible dise, je suis fort. Parce que le faible sait se fortifier dans la présence de Dieu. Il sait que dans la présence de Dieu, Dieu le rendra fort. Il devient dépendant de la présence de Dieu. Et quand il dit « Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, tout ce que je fais vient. » Il le sait que c'est vrai. Parce qu'il sait ce qu'il devient, n'a rien à voir avec sa propre capacité. Mais ce qu'il devient est juste l'intervention et la grâce divine dans sa vie. C'est la faveur de Dieu qui façonne son identité. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 12, 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je me glorifierai plus volontiers de mes faiblesses, dit l'apôtre Paul, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ta faiblesse, si tu renouvelles ta façon de penser, est capable de devenir un aimant qui attire l'intervention de Dieu et sa puissance dans ta vie. Il y a quelque chose dans la faiblesse, dans le fait que l'on soit conscient qu'on est faible, dans le fait qu'on soit conscient qu'on est pécheur et qu'on a besoin de dépendre de lui, qui nous pousse à chercher Dieu. L'orgueilleux est trop plein de lui-même pour chercher Dieu. Mais il y a un mauvais aspect de la faiblesse où tu te crois tellement faible et incapable que ça t'empêche de voir la capacité de Dieu. Ça aussi, c'est de l'orgueil. C'est pour ça que j'aime ce passage qui dit « Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur, que toute montagne sera aplanie. » Ça part de l'orgueilleux qui va être aplani. « Mais que toute vallée sera rehaussée. » Ça parle de celui qui se voit toujours comme moins les misères, moins les malheurs. Je ne peux pas prêcher, j'ai peur. Tremblade, moment. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Mais par l'Esprit du Seigneur. Mais par l'Esprit du Seigneur. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, quelle que soit ta faiblesse, c'est par l'Esprit du Seigneur. Nous devons réaliser cela. Et l'apôtre Paul avait compris ça. Il y a quelque chose. Quand tu penses bien, quand tu es renouvelé dans ta pensée sur la faiblesse, où tu réalises ta nécessité de dépendre de Dieu. Pas uniquement quand tu es dans le besoin, peut-être émotionnel, peut-être relationnel, peut-être financier, mais quand tu n'as aucun besoin, matériel ou naturel, et tu es toujours dans le besoin. Et comme David, tu dis « Je suis pauvre, j'ai besoin de ta présence ». J'ai besoin de dépendre de toi. Je suis malade si je passe pas un peu de temps dans ta présence. Je me sens pas bien. Il me faut ta présence. Je veux plus de toi. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Notre faiblesse nous pousse à nous confier en Dieu. Tous les géants de la parole de Dieu avaient des faiblesses. La faiblesse d'Abraham me sidère. Abraham avait peur, tellement peur, qu'à deux reprises, il a fait passer sa femme pour une copine. Parce qu'il avait peur qu'on le tue. Dans la Genèse qu'on lit, il dit, écoute, là, t'es tellement joli qu'à mon avis, il veut te prendre pour femme. Tu sais ce qu'on va faire pour pas qu'il me tue? Ben, on dit que tu es ma copine. Comme ça, je reste en vie, quoi. Pauvre femme. Ciao, nous on trouve. J'espère qu'aucun mari ici n'a fait ça. À prier pour vous sinon. Mais Abraham qui avait peur est devenu le père de la foi. Moïse avait une faiblesse. Il était extrêmement colérique. Un gars maltraité un Israélite dans sa colère a tué le gars. Faut être en colère. Hein? Mais Dieu a fait de lui l'homme le plus humble que la terre ait porté. Même si c'est lui qui écrit ça. Il est devenu doux, il est devenu humble. Et que dirais-je de Jacob, qui est devenu Israël? Que dirais-je de Gédéon? Leur faiblesse n'a jamais été un frein. Ta ta faiblesse n'est pas un frein si tu te focalises sur sa force. Alors que le faible dise « Je suis fort », où est sa force ? En toi. Et ça, c'était le premier point. Et c'était un rappel. Le deuxième point, que je vais essayer de rappeler plus rapidement, essayez. Pour cultiver une attitude, on doit être pauvre en esprit. Le deuxième point, c'est on a besoin d'accepter de chercher l'aide de Dieu et des autres. On a besoin de l'aide de Dieu et des autres. C'est très important. C'est pour ça que vendredi, j'ai emmené une balance. Et je dis que c'était très important d'être équilibré. En prenant l'exemple que il est important que tu comprennes que parfois Dieu parlera et révélera ta destinée uniquement au travers d'un prophète. Mais ce n'est pas parce que Dieu va te parler au travers d'un prophète que cela enlève ta responsabilité d'entendre Dieu personnellement. Et ce n'est pas parce que tu es responsable d'entendre Dieu personnellement que ça enlève la nécessité que tu entends Dieu au travers d'un prophète. Me suivez-vous? C'est très important. Les deux sont très importants. C'est crucial. Le pauvre en esprit sait dépendre de Dieu et aussi des autres. Il sait souvent que la réponse dont il a besoin est cachée dans quelqu'un d'autre. Je te garantis, la plupart d'entre nous ici, nous avons des défis à relever dans notre vie. Notre réponse se trouve cachée dans quelqu'un d'autre, une bonne partie. Quand quelqu'un dit « Moi, je dépends de Dieu tout seul, ma relation avec Dieu tout seul, j'ai pas besoin des hommes pour trouver Dieu. » Quand quelqu'un commence à parler comme ça, il n'a rien compris. Plus de 58 fois dans la parole de Dieu, Dieu dit « Aidez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, soutenez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns des autres, etc. etc. » Parce qu'on n'a jamais été conçu pour vivre tout seul. Et il faut de l'humilité pour aller puiser la réponse chez les autres et accepter que les autres nous aident et dire « J'ai besoin d'aide ». Donc c'est important, le pauvre en esprit sait très bien qu'il a besoin d'aller chercher l'aide de Dieu et des autres. Matthieu 10, 40, on voit ça à l'école biblique, mais Matthieu 10, 40 nous dit ceci, « Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » C'est qui vous ? Ici quand Jésus parle, c'est les disciples. Jésus dit à ses disciples, « Les amis, celui qui vous reçoit, me reçoit. » Il ne dit pas, celui qui me reçoit, vous reçoit. Pas confondre l'ordre. C'est très important. Ça demande de l'humilité. Le pauvre en esprit sait trouver, regarder le trésor qu'il y a dans les autres. Il apprend à voir les autres avec les yeux de Dieu. Et tu reçois Dieu, oui, bien sûr, tu peux recevoir Dieu directement, c'est sûr. Mais nous devons apprendre à chercher l'aide de Dieu et l'aide des autres. Le pauvre en esprit sait discerner et voir la grandeur dans les autres. Le roi David avait discerné la grandeur dans ses guerriers. Écoute bien ceci. Dans le monde, en général, pour t'élever, il faut écraser les autres. Dans le royaume de Dieu, pour t'élever, il faut élever les autres. Mais pour élever les autres, il ne faut pas que tu aies de jalousie, que tu connaisses qui tu es, que tu sois mort à toi-même, que tu saches honorer. Et quand ton frère ou ta sœur est béni, ou quand quelqu'un d'autre a plus de succès que toi, tu es capable de dire, c'est bon, yes, vas-y, fonce. Ah, le pasteur t'a dit bonjour, toi ? Ben moi, il m'a pas dit bonjour. Il doit pas trop m'aimer. Et là, on commence. Être pauvre en esprit, c'est savoir regarder aussi le trésor dans les autres et aller demander de l'aide. Amen. Et ensuite, être pauvre en esprit, c'est aussi chercher et savoir demander de l'aide, bien sûr à Dieu directement, passer du temps dans sa présence, mais surtout parce qu'on a besoin de lui. Surtout, on l'a vu ça vendredi, c'est là que je vais shifter un peu le message, surtout. Surtout pour trouver qui on est. Je te garantis, ton besoin principal, c'est de connaître Dieu et de te connaître en lui. Ça, c'est principal. C'est de connaître qui il est et de connaître qui tu es en lui. Et le pauvre en esprit comprend ça. Il cherche l'aide auprès de Dieu. Il sait qu'il doit dépendre de Dieu pour que Dieu puisse dépendre de lui et laisser la nature de Dieu en lui être formée, que Christ soit formé en vous, pour que sa nature formée en nous soit manifestée au travers de nous, que son amour en nous soit vu au travers de nous, que sa paix en nous soit vue au travers de nous, que sa joie en nous soit vue au travers de nous. Il sait que c'est ce qui se passe en nous est plus important que ce qui se passe au travers de nous. Et il ne laisse pas les situations. Il n'est pas le reflet de la crise. Il est le reflet de Christ. Il ne laisse pas l'inquiétude liée à la crise économique l'agiter. Il laisse la paix de Dieu, Christ, le fortifier et être manifesté au travers de lui. Daniel 11, 32 nous dit « Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. » Wow! De ceux qui connaîtront leur Dieu. Ça parle de connaître Dieu intimement. Ça parle d'expérimenter Dieu, de le connaître réellement. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » C'est ça le plus important. C'est d'être transformé en la même image, de gloire en gloire, par le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu désire, que vous et moi nous puissions expérimenter. Ne laisse pas passer cette journée sans découvrir un peu plus de ton identité en Jésus-Christ. Ne laisse pas passer cette journée sans avoir manifesté un peu plus de son identité en toi, être vu au travers de toi. Parce que ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera. Ça parle encore une fois de cet échange. Ça parle d'une connexion intime. Ça parle en réalité d'être un. Ça parle de celui qui apprend à connaître Dieu. Alors la nature de Dieu devient sa nature. Sa force devient ta force. Sa paix devient ta paix. Sa joie devient ta joie. Et sa sagesse devient ta sagesse. Ses possibilités deviennent tes possibilités. Ça parle de ça. Tu portes son nom et tu manifestes qui il est. Et son identité en toi grandit. Ça parle de ça. C'est fabuleux. C'est pour ça qu'on doit admettre nos faiblesses, mais pas être limité par elles. Parce qu'il y a plus. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre à connaître Dieu, pour se connaître par révélation. Parce que si tu peux faire habilement un bilan de tes forces, et parfois on pense que notre identité c'est que nos forces, mais notre identité c'est nos forces et nos faiblesses. Mais ça ne suffit pas. On ne se connaît pas uniquement avec nos forces et nos faiblesses. Le vrai toi, tu peux le connaître uniquement par révélation du Saint-Esprit. Quand tu vois sa gloire, parce que tu passes du temps, alors tu es transformé en la même image. De gloire en gloire. Et le pauvre en esprit comprend que c'est son plus grand besoin de connaître Dieu. Et Dieu est amour. Et plus tu connais l'amour, plus tu aimes. Nous aimons, nous dit la parole de Dieu, parce qu'il nous a aimés le premier. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire plus tu passes du temps à le découvrir, plus tu te rends compte de l'amour extravagant de Dieu. Et tu es fracassé par ton amour, son amour. Tu es humilié par son amour. Tu es humilié par sa bonté. Et sa bonté te pousse à la repentance. Tu dis, c'est incroyable comment tu m'aimes. J'ai un passé terrible. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait du mal, on m'a fait du mal. Et toi, tu m'aimes, tu es mort sur la croix. Tu as versé ton sang. Tu m'as donné ta vie. Tu es ressuscité. Tu m'as donné ton Saint-Esprit. Tu fais de moi une nouvelle créature. Waouh! Et là, tu te rends compte. Et là, là tu te rends compte combien il t'aime, alors tu apprends à aimer. Les amours grandissent en toi. Et tu es capable alors de pardonner. Tu es capable de triompher du mal par le bien plus. Tu pardonnes plus facilement. Tu es plus prompt à te repentir. Tu endures plus les offenses. Parce que sa force devient ta force. Sa nature devient ta nature. Parce que ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera. Et ils feront des exploits. Ça, c'est le plus grand besoin. De chercher notre identité en lui. Et de découvrir qu'il est amour. C'est l'amour qui te rend puissant. C'est l'amour qui te rend fort. Si tu veux chercher la puissance, oui, cherche-la. Mais avec les bonnes motivations. Celle d'aimer plus. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 12, au verset 13, « Aspirez aux dons les meilleurs. Et je veux encore vous montrer une voie par excellence. » 12, verset 31 plutôt. Il parle de la voie de l'amour. Et après il dit, tu peux parler toutes les langues si tu veux, la langue des anges si tu veux. Tu peux avoir la foi qui manifeste un paquet de puissance si tu veux. Si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. Dieu est amour. Celui qui connaît Dieu aime Dieu et il aime les autres. Beaucoup de gens utilisent le nom de Dieu pour tuer. Beaucoup de gens se sacrifient volontairement pour faire exploser des millions de gens au nom de Dieu. Ça, c'est pas le Dieu amour, ça. Un jour, quelqu'un me disait, oui, les musulmans meurent martyrs et les chrétiens aussi. Je dis, oui, mais le chrétien, il veut pas, lui. Il veut pas mourir martyr, lui. On le tue. Je parle pas des musulmans en général, d'accord ? Je parle des extrémistes. Mais ceci dit, nous, les enfants de Dieu, le Dieu qu'on sert est amour. Et Dieu veut que nous puissions manifester sa bonté en le connaissant plus. Et si tu apprends à aimer plus, tu vas découvrir ceci. Tu vas apprendre que l'amour est un serviteur. L'amour est un serviteur. Le pauvre en esprit a une telle attitude de cœur qu'il n'accepte pas Dieu uniquement comme son sauveur. Il n'accepte pas Dieu uniquement comme son Seigneur. Il accepte Dieu comme son serviteur. Parce qu'il sait que l'amour est un serviteur. Et en étant transformé par la gloire de l'amour, cet amour en lui le pousse aussi à servir. Et il aime servir. Galates 5, 13. Soyez par amour serviteurs des uns des autres. Soyez par amour serviteurs des uns des autres. Ma question, j'ai posé vendredi soir pour vous, mais lève pas la main, c'est as-tu accepté Jésus comme ton serviteur? Il y a des combats dans les cœurs en disant, mais pasteur, qu'est-ce que tu racontes là? Jésus mon serviteur? Écoutez bien ce passage. Jean 13, 6. Jésus lave les pieds de ses disciples et il arrive à Pierre. Et Pierre ne veut pas. Verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre et lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répond, « Ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. » Sheila, ça veut dire pause. Ici, Jésus sert ses disciples. Il lave les pieds de ses disciples parce que l'amour est un serviteur. Et là, ça bloque dans le coco de Pierre. Il dit, « Là, il y a un souci là. » Dieu Tout-Puissant, oui. Dieu Seigneur, oui. Dieu Sauveur, oui. Dieu Serviteur, hein? C'est quoi ça? Et il refuse au départ. Et Jésus lui dit, tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Maintenant, mais tu comprendras plus tard. Et il dit ensuite, si tu ne m'acceptes pas, si tu n'acceptes pas que je te sers de cette manière, tu n'auras aucune part avec moi. Qui a envie d'avoir une pleine part avec Jésus dans ce lieu? Amen. C'est quoi accepter Jésus comme son serviteur? Ça parle de quoi en réalité? C'est lorsque, vous savez, ici, Pierre n'arrivait pas à concevoir l'amour extravagant de Dieu à les servir à ce niveau-là, parce qu'à l'époque, les serviteurs qui lavaient les pieds, c'était les plus bas. C'est pas un roi, c'est pas un homme, c'est pas les gens de la maison, c'est les serviteurs. Et Jésus se rabaissait à ce niveau-là, pour lui, c'était incompréhensible. Il n'arrivait pas à recevoir parce qu'il n'arrivait pas à comprendre. C'est là le danger. Il n'arrivait pas à recevoir parce qu'il n'arrivait pas à comprendre. Il n'arrivait pas à recevoir l'amour extravagant de Dieu pour lui. Le pauvre en esprit arrive à recevoir Dieu même lorsqu'il ne comprend pas. Même lorsqu'il ne comprend pas tout, il arrive à recevoir Dieu dans son cœur. Parce qu'il a compris une chose, il sait qu'il ne mérite pas l'amour extravagant de Dieu. Mais il arrive à l'accepter. Il est étonné. Les anges ont dû être sidérés de voir déjà le Dieu de gloire devenir homme et se dépouiller de sa puissance. Ensuite, de choisir de devenir serviteur et se dépouiller d'une position sociale. Et ensuite, de décider de mourir jusqu'à la mort et de subir la conséquence du péché et de servir l'homme qui ne l'aimait pas et qui l'a crucifié. Les anges ont dû dire, mais on ne comprend pas Dieu. Et Pierre, à l'époque, là, avait du mal à comprendre ça. Le pauvre en esprit comprend que Dieu est fort et tout-puissant, mais il comprend aussi que la faiblesse de Dieu, ou si tu préfères, la faiblesse apparente de Dieu, est plus forte que la force des hommes. Il comprend ça parfaitement. 1 Corinthiens 23 nous dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte. La faiblesse apparente de Dieu renferme la puissance. C'est une façon dont Dieu a de nous communiquer sa puissance qui parfois peut nous paraître étrangère à notre conception, à notre raison. C'est pour ça, un autre exemple, que les musulmans ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Parce qu'ils te disent que Dieu ne peut pas mourir sur une croix. Parce que Dieu est tout puissant. Donc comme il est tout puissant, pourquoi il est faible? Parce que Dieu aime confondre la sagesse des sages avec les choses folles. Il aime confondre les choses fortes avec les choses faibles. Et il va se réjouir de confondre les choses qui se dressent contre sa connaissance en se servant de ta faiblesse et de ma faiblesse. Et le pauvre en esprit réalise cela. Il comprend cela. Vous savez, l'amour a un aspect qui semble fragile, oui ou non? L'amour parfois a un aspect qui semble fragile. Par exemple, lorsqu'on te fait du mal et que poussé par l'amour de Dieu, parfois tu ne te défends pas. Parfois il faut se défendre parce que l'amour se réjouit dans la vérité, non pas dans l'injustice. Mais parfois, l'amour endure tout. Donc à un moment donné, parfois, tu ne te défends pas, tu laisses aller, tu ne réponds pas par exemple aux critiques, tu ne réponds pas par exemple à l'offense. Et ce fait que tu ne réponds pas peut paraître faible. Oui ou non? Les gens qui t'entourent, qui ne connaissent pas Dieu, et que la faiblesse de Dieu est plus forte que la force du monde, des hommes peuvent te regarder en disant, tu es faible de caractère. Ouais, moi là, ouais, c'était moi là. Dans longtemps, les avocats, tribunal, jugement, tout et encore. Déjà avec deux katas dans sa tête. Ils comprennent pas. Parce que l'amour a un aspect fragile. Mais dans sa fragilité, il est dangereux. Dans sa fragilité, il est tout puissant. C'est pour ça qu'on regarde un autre exemple pour les jeunes filles. Notamment, on regarde les jeunes filles ont tendance à aimer ou être attirées par les bad boys. C'est-à-dire les gars dont le look est un peu destroy, comme on dit. Quoi. Gars, c'est un dur. Gars, là, il frappe quand. Voilà, ça, c'est un gars. Il a l'autorité, quand on le rentre dedans, il est capable de répondre. Il est capable de se tenir. Ça, c'est un homme qui manifeste l'autorité. Et après, quand elle se marie avec lui, ça termine en catastrophe. Parce qu'on croit que c'est ça la force. Oh, pas jeune fille, ça. On croit que c'est ça la force. Et quand le gars est un peu doux, miel, ah, il est trop sucre, lui, hein. Or que la vraie force de l'amour se trouve dans la douceur. Jeune fille, tu veux avoir le gros lot pour te marier? Jackpot, trouve un gars doux. Nicolas, c'est un gars doux. Quelqu'un qui est capable d'endurer. Parce qu'il a compris, l'amour est fragile mais puissant. Il comprend que, oui, des fois, il ne faut pas se défendre, ça paraît faible, mais c'est fort. Ça emmène la paix, ça emmène la joie, ça libère. Il comprend que l'autorité se trouve dans cette force qu'est l'amour qui aime. La Bible dit, par la douceur, on brise même des os. Moi, j'ai encore un paquet de progrès à faire là-dedans. Ça, c'est une faiblesse. Énorme. Et là, je suis content de l'exemple de Moïse. Ou même de l'apôtre Paul qui dit « J'étais un homme emporté. » Et c'est lui ensuite qui dit des années après « L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour n'est pas rude. » L'amour endure tout. L'amour espère tout. L'amour est bon. Waouh! L'amour est vrai. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Hé! Hey! Aimer comme ça, là, c'est bon quand même. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et le pauvre en esprit a compris cela. Il comprend que la faiblesse de Dieu ou la faiblesse apparente de Dieu est plus forte que la force des hommes. Et il se confie en Dieu. Et quand les autres lui font du mal, il dépend de Dieu pour intervenir. Il est attentif à sa sagesse. Est-ce que je dois contrer ou pas? Et comment je dois le faire si je dois le faire pour amener la justice? Est-ce que je back off ou pas? Est-ce que j'ai besoin juste de sa force pour endurer et traverser cette mauvaise saison et m'attendre à son intervention? Ou comment peut-il m'utiliser pour intervenir au travers de moi? Ou comment je dois me positionner pour qu'il intervienne au travers d'autres? Le pauvre en esprit cherche à dépendre de Dieu. Le pauvre en esprit a compris qu'être faible, c'est réellement être fort. Il sait voir la force dans la faiblesse. Le pauvre en esprit ne laisse pas son incompréhension le faire douter de la bonté de Dieu. Il a compris que même s'il ne comprend pas, il croit en la bonté extravagante de Dieu envers son égard. Il a compris que nous croyons, non pas parce que nous comprenons, mais nous comprenons parce que nous croyons. Hébreux 11:3, c'est par la foi que nous comprenons. Mais avant de comprendre, tu ne comprends pas. Mais par la foi, en sa bonté, et en l'apparente faiblesse, pourquoi Dieu n'intervient pas parfois? Est-il faible pour intervenir dans ta saison? Son bras est trop court? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je ne comprends pas. Mais Seigneur, je crois. Et je veux dépendre de toi pour avoir la paix. Je veux dépendre de toi pour marcher dans l'amour. Je veux dépendre de toi pour manifester ta bonté, pour manifester ta sagesse. Être pauvre en esprit, c'est avoir le royaume, l'autorité. Le pauvre en esprit est capable de recevoir la parole de Dieu. Le pauvre en esprit est vidé de lui-même et il laisse Dieu le remplir. Parce que la condition pour être rempli de Dieu, c'est d'être vide. Et le pauvre en esprit s'est vidé de l'incrédulité. Il s'est vidé de lui-même. Il reconnaît ses forces et ses faiblesses. Mais il se remplit de la force de Dieu. Il est capable d'entendre la parole. Et lorsqu'il entend la parole, son cœur brûle. Luc 4, 18 nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre en esprit, son cœur s'embrase lorsqu'il reçoit la parole de Dieu. Le pauvre en esprit, son cœur s'anime du feu de Dieu lorsqu'il entend la parole. Parce qu'il sait reconnaître Dieu, même lorsqu'il ne comprend pas ce qu'il se passe, même lorsqu'il ne comprend pas la forme dont il prend ou dont la tournure dont prennent les situations. Mais le pauvre en esprit a soif. Il est attentif à la voix de Dieu. Il apprend à reconnaître Dieu et à reconnaître et à entendre sa voix. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, et je terminerai là-dessus. Où les disciples marchent avec Jésus. Et ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Et Jésus vient avec eux. La Bible dit dans une autre forme. Et ils ne reconnaissent pas Jésus. Et il dit, tu sais, tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé dernièrement? Le Messie, celui qu'on croyait qu'il allait nous délivrer. Il est crucifié. Qu'est-ce qu'on va faire? On avait mis notre espérance en lui. J'ai mis mon espérance en lui pour sortir de mes problèmes. Ça fait des mois que ça dure. Et rien ne change. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, ils sont en train de dire à Jésus, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Dans sa bonté, il dit, mais pourquoi êtes-vous lent à croire? Pourquoi vous avez tant de doutes dans vos cœurs? J'ai une chose à te dire qui, j'espère, va grandement t'encourager. Si parfois tu doutes, Jésus se fera un plaisir de venir marcher avec toi et te partager sa parole pour à nouveau embraser ton cœur et enlever les doutes. Espère en Jésus. Crois en Jésus. Et Jésus les conduit dans les Écritures en leur expliquant la parole. Moïse, la loi et les prophètes. Et après, ils invitent Jésus dans Luc 25, chez eux, et ils prennent la communion ensemble. Et là, Jésus disparaît, et leurs yeux s'ouvrent, et ils disent dans Luc 25, s'il te plaît, le verset suivant. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Leur cœur brûlait. Le pauvre en esprit, son cœur brûle pour la présence de Dieu. Son cœur brûle pour la parole de Dieu. Son cœur brûle pour la communion avec Dieu. Son cœur brûle pour plus de Dieu. Son cœur brûle lorsqu'il entend la vérité des Écritures. Son cœur brûle pour être avec Jésus. Est-ce qu'on peut fermer les yeux pour terminer, s'il vous plaît?